Bonjour, Peter. Le soleil est au rendez-vous aujourd'hui.
Oui, bonjour, Gregory.
Dans ce nouveau podcast, nous allons vous parler des différences qu'il y a lors de l'utilisation de l'urée et du CAS. Peter, vous avez abordé ce sujet dans un webinaire précédent, mais ce podcast était uniquement disponible en néerlandais.
Oui, c'est correct, hein, mais nous avons eu tellement de réactions après le podcast en néerlandais.
Alors, Peter, quelle est la différence entre l'urée et le nitrate d'ammonium, ou comme on dit, le CAS?
Oui, donc le nitrate d'ammonium contient plus ou moins 50% de nitrate. Hein, donc le nitrate est directement absorbable pour la plante dès qu'il est dissous dans l'humidité de l'eau. L'ammonium va se fixer au complexe du sol. Donc ça, c'est un type d'azote qui est disponible pour la période après. Si on va voir au l'urée, donc l'urée doit être d'abord convertie en ammonium via le processus hydrolyse. Mais malheureusement, chez le processus hydrolyse, il y a de l'ammoniac qui vient libre. Et l'ammoniac est un gaz. Et ça, c'est vraiment de l'azote qui est perdu. C'est de l'azote que vous avez acheté, qui est dans votre bilan d'azote. Mais les plantes ont rien d'avantage à l'ammoniac parce que c'est du azote perdu. Mais au point de vue économique et agronomique, le CAS est souvent un meilleur choix. On va discuter ça encore pendant le podcast. Oui.
Ok, alors Peter, vous venez de mentionner dans un certain sens qu'il y a des pertes d'ammoniac lors de l'utilisation de l'urée. De quelle ampleur est ces pertes?
Oh, l'ampleur des pertes, ça c'est très très difficile, mais selon l'Agence européenne pour l'environnement, il y a une moyenne de 20% de pertes d'ammoniac. Donc ça c'est déjà la peine. Donc beaucoup de circonstances peuvent augmenter la perte, hein. Des circonstances comme du sécheresse, du vent, de chaleur, ça, ils vont augmenter la perte d'ammoniac. Aussi, une absence d'incorporation de l'engrais dans le sol va augmenter la perte. Hein. Dans l'époque, même, ils ont même constaté des pertes supérieures à 45%. Donc ça, c'est énorme. Ce sont toutes des pertes d'azote via ammoniac. Hein. Avec le CAS, l'ammonium nitrate, il y a aussi une perte d'ammoniac, mais ça c'est très très faible. Là-bas, on parle plutôt d'une perte de 2,5%. Donc si on le compare avec 20%, c'est presque une différence de 10%. Hein.
Ok, si je comprends bien, on met des inhibiteurs dans l'urée pour réduire les pertes d'ammoniac.
Ah, tu es bien au courant, Gregory, hein? Oui, parfois c'est correct. Parfois on place des inhibiteurs sur l'urée pour limiter la perte d'ammoniac. Hein? Mais quand même, les inhibiteurs ne sont pas obligés en Belgique et aux Pays-Bas. Autres pays comme l'Allemagne, les inhibiteurs sont obligés. Si l'inhibiteur est fraîche, la perte d'ammoniac peut être limitée vers la moitié. Hein, donc, au lieu de 20% 100, ça peut devenir au moyen 10% avec inhibiteur. Mais il y a quelque chose de très important à mentionner. Si l'urée plus inhibiteur n'est pas fraîche, l'inhibiteur va aussi se dégrader. Donc, par exemple, vous avez acheté un urée avec inhibiteur, mais le produit, il est déjà chez votre fournisseur ou le grossiste depuis 6 mois. L'inhibiteur est déjà, pour une grande partie, dégradé. Donc ça, c'est important. Aussi, si vous travaillez avec un urée plus inhibiteur plus soufre, hein, ça, c'est aussi un produit qui circule fréquent. On doit savoir que le soufre et les inhibiteurs fonctionnent comme l'eau et le feu. Donc, le soufre va stimuler la dégradation de l'inhibiteur et la perte d'ammoniac vont aussi de nouveau augmenter.
Pour bien comprendre, en quoi consiste cet inhibiteur dans l'urée?
Oh, ce sont des additifs chimiques, hein, qu'on ajoute à l'engrais, mais c'est encore un peu difficile à dire les impacts au niveau du sol, hein. Il y en a des idées que le inhibiteur a un effet négatif aux vies de sol, hein, au niveau des micro-organismes. Des études concernant ce sujet sont actuellement en cours, mais les résultats ne sont pas encore connus.
Est-ce qu'il y a des possibilités d'acidification du sol qu'il faut prendre peut-être en considération?
Oui, tout à fait. Donc, la transformation de l'ammonium en nitrate dans le sol, hein, libère un ion H+, qui a des effets de diminution de pH sur le sol, hein. Donc, dans les engrais, le degré d'acidification est exprimé en équivalent de base. Par exemple, dans le cas de l'urée, hein, il s'agit de moins 47. Beaucoup d'agriculteurs ont déjà vu ça sur l'étiquette. Hein. Donc, moins 47, cela signifie que si vous utilisez 100 kg de riz, vous devez ajouter 47 kg de calcium oxyde au sol pour avoir pas un effet de diminution de pH. Hein. Donc, pour le CAS, l'équivalent de base, hein, dépendant de qualité du base du CAS, entre 15 et 30. Donc, moins acidification pour le CAS. Le sulfon, ça c'est un peu plus, ça a moins 34 en équivalent de base. Hein. Donc ça c'est aussi lié parce que le soufre a aussi un effet négatif pour le pH du sol. Donc ça c'est très important à savoir comme agriculteur quel type de engrais vous utilisez aussi pour mettre après le chaud au champ parce que évidemment le pH de votre sol est crucial pour l'absorption de tous les éléments. Oui.
Y a-t-il une différence dans le mode d'épandage entre l'utilisation du CAS et de l'urée?
Oui, surtout, hein. Ça c'est lié au poids, hein. Donc l'urée pèse environ 750 kg par mètre cube. Le CAS est facilement 30% plus lourd. Hein, ça, c'est plutôt 1100 kg par cube. Hein. Donc, à cause de ça, parce que le CAS est plus lourd, ça va être faisable pour l'étendre, pour l'épandage plus long, plus en longueur. Hein. Pour l'urée, il a une longueur maximale de 24 mètres, le CAS 34 mètres très facilement. Hein. Parce que l'urée est aussi moins lourd, il est aussi beaucoup plus sensible au vent. Hein. Même dans des conditions de faible vent, le schéma d'épandage sera moins régulier avec l'urée. Hein. Donc on peut facilement comparer ça avec une boule de polystyrène, hein, ça c'est l'urée, et le boule de bois plus lourd, ça c'est le CAS. Hein. Donc si vous jettez un boule de bois, ça va être possible de venir beaucoup plus loin en comparaison avec le boule de polystyrène. Hein.
Qu'en est-il en termes de différence de prix entre le CAS et l'urée?
À mon avis, le choix le plus malin est toujours le CAS, hein, au niveau de prix, mais aussi au niveau de agronomie. Parce que, avec l'urée, vous savez aussi jamais quand le nitrate est disponible pour la plante. Parce que ça prend plus de temps aussi pour être disponible pour la plante, l'urée, si on le compare avec le CAS.
Ok, alors à l'heure de nos jours, nous devons toujours tenir compte de l'impact du CO2. Quelle est la différence entre le CAS et l'urée à cet égard?
Avec l'urée, hein, le CO2 est littéralement dans le composé chimique. Hein, donc, si vous appliquez l'urée au champ, le CO2 est libéré dans le champ. Donc, il y a aucune possibilité d'éviter un effet de CO2 si vous utilisez l'urée. Avec le CAS, le CO2 n'est pas dans le produit. Donc, il n'y a pas de CO2 qui libère au champ. Mais on doit dire que chez la production de CAS, du CO2 est produit. Mais IARA est aussi très actif avec des engrais bleus, des engrais verts pour être neutral au niveau du climat, au niveau du CO2. Donc aussi au niveau de CO2, le CAS est le meilleur choix. Oui.
Dans les champs, l'urée est souvent utilisée sous forme liquide, j'ai compris. Quels sont les éléments à prendre en considération lors de l'utilisation de ce liquide?
Oh, hein, si on compare le liquide avec le granule, pour le liquide, vous avez besoin d'un réservoir de stockage. Pour le vrac, si vous prenez la décision de travailler avec des big bag, il est très facile pour stocker la big bag. Vous avez aussi la possibilité de choisir pour différentes sortes d'engrais, si en big bag, en réservoir, c'est difficile. On voit aussi qu'il y a plus de variations de qualité dans les liquides. Les granules, ils sont beaucoup, beaucoup plus stables. Pas de calcium dans le liquide, donc dans le casse, normalement il y a du calcium inclus. Et évidemment, le casse ne contient pas d'urée. Le uréon, par exemple, contient facilement une moitié d'urée. Risque d'avoir des brûlures des feuilles si vous appliquez de l'urée liquide, surtout avec des conditions de soleil, gel nocturne au printemps. Aussi, le grain, on dit toujours ah, liquide est mieux s'il est sec, mais je ne suis pas convaincu de ça. Par exemple, si vous appliquez liquide, c'est 200 litres par hectare, c'est un équivalent de 0,01 mm de l'eau. Mais le grain, il fonctionne déjà avec la rosée. Un nuit de rosée, ça donne 0,1 mm de l'eau. Donc, ça, c'est 10 fois plus. Donc, à notre avis, même dans des conditions secs, il est mieux de travailler avec des granules et pas avec des liquides. Un avantage d'un liquide peut être que vous pouvez très bien faire la limite des parcelles et pas avoir aussi le risque d'avoir des granules dans les cours d'eau. Donc, ça, c'est un peu le seul avantage, à mon avis, d'un liquide, aussi la limite des parcelles.
Ok, Peter, ça me semble une bonne conclusion. On arrive aussi au terme de ce podcast. Je rappelle que si vous avez des questions à ce sujet, Peter se fera un plaisir de vous répondre. On peut joindre Peter aussi en direct par téléphone, je crois.
Oui, aucun problème. Oui.
Ok. Peter, j'espère vous revoir très bientôt pour un prochain podcast. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les podcasts de Yara en ligne sur Spotify et aussi via la page web de Yara. Si vous, auditeurs, avez encore des questions concernant les autres produits Yara, n'hésitez certainement pas à contacter votre représentant Yara pour la Belgique. Au revoir, Peter, à bientôt.
À la prochaine, Grégory. Au revoir.